question, j'allais dire, un petit peu religieuse, carmélite. C'est une carmélite missionnaire du Mexique qui est morte, Edith Lucia. Hein? Donc, Llama de Amor Viva, numéro 5. Musique originelle d'elle, harmonisation Maria Dolores Villarreal. Donc, c'est plutôt climat maison religieuse, quoi. D'accord, hein? Mélodie, enfin, vous verrez. D'accord, hein? Après, je vous en passerai un autre. Mais pas cette fois-ci, mais une prochaine fois. Il n'y en a pas assez?
Ouais, moi,
j'en ai fait 17. Peut-être combien? Ah oui, évidemment, comme il y a des clandestins. Enfin, des. Pardon. Bon, bah, à la pause, hein, on va faire. Oui. À la pause, si vous voulez bien. Hein? D'accord? Bon.
Thank you.
musique, du poème. Je vous en passerai une autre plus tard. Tout à fait un autre genre, pas du tout religieux, pas du tout. Comment ? Oui, bien sûr, oui, il est assez connu. Oui, bien sûr. C'est très mélodieux, très harmonieux, c'est-à-dire très, très dévot, quoi. Enfin, très, voilà. plein d'onction et de dévotion. Enfin, c'est maison religieuse, quoi, communauté religieuse, ça c'est très clair. Bon, après, je vous montrerai, parce que c'est plutôt des artistes, queue de cheval et tout ça, donc c'est un peu autre chose, quoi. Et, c'est assez intéressant. Bon, alors, reprenons notre plan d'hier. Il nous reste deux points à traiter. Avant d'aborder notre étude de la première strophe proprement dite, deux points qui nous serviront d'introduction, hein, ça va être assez rapide. Un traité moderne du Saint-Esprit, entre guillemets. Alors pourquoi cette expression ? Je voudrais vous faire saisir que traité du Saint-Esprit, c'est un ouvrage de Saint Basile le Grand, un des grands-pères de l'Église. Voilà. Père Cappadocien, à l'époque du concile de Constantinople, 381, vous voyez, 4e siècle, fin du 4e siècle, traité du Saint-Esprit. Alors, j'ai repris ce titre, car il y a en effet un vide dans l'enseignement de l'Église d'Occident, dans l'enseignement de l'Église latine, sur l'Esprit-Saint, entre la grande synthèse de saint Thomas d'Aquin en théologie trinitaire, et puis, chercher, et puis. Alors, Jean de la Croix, si vous voulez, c'est ça que je veux vous faire dire, mais si vous prenez, mettons, le XIIIe siècle, bon, vous avez le concile de Lyon, puis après vous aurez le concile de Florence au XVe, sur la question des processions trinitaires. Hein?
Yves de Saint-Thierry.
Il y en a un qui s'appelle Jean de Saint-Sanson, non ?
Jean de Saint-Thomas, je pense, oui, que vous voulez dire. Alors, un théologien carme du XVIIe, sur les dons du Saint-Esprit. Il y a quelque chose, ça c'est vrai. Mais après, il faut attendre, et c'est assez étonnant. Je parle de l'Église latine, l'Église d'Occident. Je ne parle pas de l'Église d'Orient. C'est tout le contraire. Hein? Eh bien, il faut attendre... avec l'encyclique Divinum Illud. Voilà.
Guillaume de Saint-Thierry aussi.
Certaines choses dans la... Mais c'est avant. Enfin, c'est le 13e... Guillaume de Saint-Thierry, c'est les cisterciens, non ? Donc c'est...
Hein? C'est le même temps que...
Ouais, que enfin, 12e, 13e, hein, oui. Oui, c'est antérieur à saint Thomas. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez, on n'a rien au niveau de la pneumatologie dans l'Église... latine. Rien de notable en tout cas. Hein. C'est assez frappant, il y a une sorte de vide pneumatologique. Et si vous voulez, ben, Saint Jean de la Croix, avec la vie flamme, c'est un peu une exception, un apax comme on dit, savamment. Et ouais, c'est sûr. Il faut en avoir un petit peu conscience. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé un traité moderne du Saint-Esprit. Dans ce vide, donc l'encyclique de Léon XIII, c'est 1897. Hein. Très beau texte, hein, sur l'Esprit Saint. Hein. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a dans la théologie catholique latine, hein, et dans le magistère catholique, une concentration, d'une part, sur la christologie, c'est très clair. Avec l'école française, c'est tout à fait évident. Hein. Concentration sur la christologie. La dimension christocentrique du salut, bon, on voit bien ça chez Sainte Thérèse, c'est très net, hein, mais aussi dans toute la théologie du Verbe incarné au XVIIe siècle français, c'est sûr. Et puis par ailleurs, dans la théologie de la grâce, une concentration sur le don créé, la grâce créée, grâce sanctifiante, justifiante, plutôt que sur la personne du donateur. Donc ça, c'est dans l'influx du Concile de Trente qui a mis l'accent là-dessus par rapport au protestantisme qui le niait. Le protestantisme niait cet aspect d'un don ontologique fait à la personne, hein, un don créé, la grâce. Hein. Et donc la théologie catholique et la pastorale catholique ont insisté sur ce don, la grâce en nous, etc. Et peu sur le donateur. Donc on perdait un peu de vue le donateur. Et donc il y a eu cette double concentration christologique et puis sur le don créé dans la grâce. Alors c'est vrai que Saint Jean de la Croix représente une exception. Une exception d'autant plus intéressante. Voilà. D'où l'intérêt de travailler ce texte. Alors je l'ai appelé moderne, pourquoi ? Bon, traité du Saint-Esprit, Saint-Basile. Bon, traité moderne parce que Jean de la Croix c'est la Renaissance, l'âge moderne. Et évidemment, c'est aussi cette concentration de l'époque moderne sur la dimension personnelle du salut. Une concentration jusqu'à satiété, on en est rebattu. Sur la relation personnelle avec le Dieu du salut. Donc c'est toujours un petit peu moi et mon Dieu, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est la Renaissance, c'est le XVIe siècle et la suite. Hein, l'âge moderne, c'est... Bon, le protestantisme en est une illustration, les courants d'illuminisme aussi. Très fort à l'époque de Jean de la Croix. Hein. L'illuminisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la prétention d'être éclairé en direct, illuminé, par l'Esprit Saint. Les courants illuministes disaient ça, comme Moïse, comme Saint Paul, comme Marie. Donc ça devenait sectaire marginal parce que l'Église, la hiérarchie, le magistère, on s'en fiche. Voilà, il y a toutes ces déviations-là. Donc, vous voyez, la vie flamme constitue vraiment une exception tout à fait intéressante et un traité moderne du Saint-Esprit, car nous allons voir qu'en effet, l'Esprit-Saint est donné à la personne humaine. Il est donné à la personne humaine, c'est clair. C'est rattaché à l'événement de Pentecôte, on le verra dans la strophe 2, hein, acte 2. C'est rattaché à l'événement de Pentecôte, mais c'est la Pentecôte vécue par la personne. C'est très clair, il y a une concentration sur la personne. Comme il y a une concentration sur la personne dans le cantique spirituel de Jean de la Croix aussi. Vous vous rappelez, hein, l'épouse. Mais cela se dit très justement de l'Église. Dans les romans, c'est l'Église épouse. Dans le cantique, c'est l'âme épouse. Et là, on voit très bien que c'est la personne, c'est l'âme. L'âme. Ça va ? Concentre sur l'âme. Alors, à la fin du XXe siècle, je vous citais une fois, j'ai bien lu ça chez le théologien espagnol que nous avons rencontré récemment, Collegario, González de Cardedal, on arrive à saturation de cette concentration sur la personne, quoi, sur le sujet. Saturation de subjectivisme, saturation de psychologisme, saturation, on en est rebattu. D'anthropocentrisme, on en est rebattu, vous voyez. C'est plusieurs siècles. Hein, plusieurs siècles. Bon, voilà. Alors voilà, je crois que l'enseignement de Saint Jean de la Croix surgit comme vraiment quelque chose d'exceptionnel. L'Esprit Saint est donné à chaque personne humaine comme un feu purifiant, transformant et sanctifiant. C'est donc la mission visible de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte qui se prolonge invisiblement auprès de chaque personne humaine. Voilà, je crois, l'intérêt de ce texte, c'est... Et sa situation théologique, hein, ça c'est assez important de le situer dans l'histoire de la théologie. Dernier point que nous devions voir, le prologue et le poème. Donc maintenant vous avez vos œuvres, ça va être très bien. On va pouvoir aborder un peu le prologue, dire quelques mots sur le poème que vous venez d'écouter. Lorsque vous lisez le prologue des œuvres, des commentaires de Jean de la Croix, vous avez sa méthodologie, sa pastorale, sa théologie, tout ensemble. Donc, ce prologue est adressé à la noble et dévote dame, Doña Ana de Mercado y Peñalosa. Il faut reconnaître, c'est à peu près la même chose dans les autres prologues des grandes œuvres de Saint Jean de la Croix. Il commence par un aveu ou d'impuissance ou une répugnance, hein, à dire quelque chose. Voilà. C'est trop difficile à dire. C'est pas possible. C'est trop ineffable. C'est indicible. Il dira, vous verrez ensuite dans ce prologue, on ne va pas tout lire, hein, soumet à l'Église ce qu'il va dire. Donc ça, c'est constant chez lui. Et il affirme aussi que ce qu'il dit est au-dessous de l'expérience en elle-même. C'est au-dessous, en deçà de l'expérience. Mais alors, une chose qui est assez constante dans la vie flamme, mais aussi dans le cantique, et là il est péremptoire, il ne faut pas s'étonner de ce que Dieu fait. Il ne faut pas s'étonner de ce que Dieu fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas minimiser, il ne faut pas rapetisser l'œuvre de Dieu. Et de fait, la vie flamme, toutes les strophes, c'est « Oh, oh hein !» C'est un magnificat, c'est une exclamation. Hein. Donc c'est une œuvre lyrique qui exalte Dieu et l'œuvre de Dieu. « Oh, oh, oh hein. !» Donc ça peut nous faire sourire, mais il nous rend attentifs à cette chose. Ce n'est pas parce que vous ne le vivez pas ou que vous ne le comprenez pas que ça n'existe pas et que ce n'est pas possible. Ça peut vous paraître trop sublime, mais c'est possible, c'est réel. Voilà un point excessivement important de sa pastorale et de sa méthodologie. Ouais ? Bon. Alors, voilà ce que nous dit ce prologue. Hein. Et d'ailleurs, il montre qu'au fond, c'est rien de plus que la parole de Jésus en Saint Jean, Jean 14, 23, vous allez le retrouver. Et c'est assez amusant, enfin, pas amusant, mais... Le paragraphe 2, hein, au fond, c'est l'accomplissement, la réalisation de cette parole, hein, promesse de Jésus. Hein, celui qui... Alors, si vous prenez le texte de l'Écriture, on peut demander un texte direct en grec au Père Blois, mais bon, hein, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et je me manifesterai à lui. N'est-ce pas? Jean 14, 21, 23. Hein. Alors, si vous regardez le texte précis dans l'Évangile... Il est question du Père et de Jésus, évidemment, qui parle. Si vous lisez le texte de Jean de la Croix, et Saint Thérèse d'Avila fait la même chose dans les septièmes demeures, vous verrez que dans celui qui l'aimerait, viendrait le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et qu'il ferait en lui leur demeure. Donc, il interprète d'emblée, et de toute façon, il a tout à fait raison dans la théologie trinitaire, hein, il interprète d'emblée avec la présence de l'Esprit. Voilà, c'est tout à fait juste, hein, il n'y a aucun problème. Mais c'est assez intéressant de voir cette interprétation et qui, évidemment, est le point de départ de la vie flamme. C'est clair. C'est l'Esprit Saint qui vient habiter en nous, c'est clair. Mais jamais sans le Père et le Fils, c'est tout à fait clair. Donc, pour lui, au fond, tout ce qu'il va dire, c'est la réalisation, l'accomplissement de cette parole promesse de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, c'est rien de plus. Hein. Il ne faut pas étonner que Dieu fasse de telles grâces, de grâces si élevées et si étranges aux âmes hein, qu'il veut combler. Hein. Parce que si nous considérons qu'il est Dieu et qu'il les fait comme Dieu, qu'il les réalise en tant que Dieu, c'est-à-dire avec un infini amour et bonté, cela ne nous paraîtra pas déraisonnable. Hein? Car il a dit lui-même, voilà, hein, ce qui serait en le faisant vivre hein, et habiter dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans la vie de Dieu, comme l'âme le donne à entendre dans ses chants. Donc c'est au fond cette habitation de Dieu en nous et notre habitation de nous-mêmes en Dieu. C'est cela. C'est cela le commentaire de la vie flamme. Donc c'est une parole de l'Écriture qui oriente tout le commentaire hein, et qui, conforte l'expérience, mesure l'expérience spirituelle, hein, qui est le vis-à-vis de l'expérience spirituelle. Saint Jean de la Croix a des sources, je vous l'ai dit hier, elles sont minimes, il les cite très peu, Augustin, Denis, Saint Thomas, très peu. Lui, c'est l'écriture comme source sommet, comme confrontation, comme mesure, comme lumière, enfin c'est... C'est constamment, il est constamment référé à l'Écriture, c'est clair. Voilà, donc on part avec cette assurance que nous donne le prologue. Hein. Il nous fait comprendre aussi au paragraphe 3 de ce prologue, où déjà il place le symbole de la bûche et du feu, que c'est une transformation aussi qui se donne à comprendre parce que la charité, qui est notre participation à l'Esprit Saint, La charité peut croître à l'infini. Elle progresse toujours ici-bas. C'est un des grands dadas du père Lethel, ça. Hein? Voilà. Et donc, il va nous présenter ce dynamisme comme une participation à la flamme de l'esprit. Alors, il nous fait comprendre qu'au fond, la vie flamme, ce n'est pas une étape nouvelle. Hein? Mais, par rapport au cantique spirituel, hein, c'est plutôt un déploiement, hein, qui va inventorier ce que c'est que cette vie sur les sommets de la vie spirituelle. Voilà. Bien. Le poème, donc, on a affaire à une œuvre lyrique, non seulement dans le poème, mais dans le commentaire, à beaucoup d'endroits. Ce n'est pas vraiment un traité. Ça garde son aspect de chant, de louange, de magnificat, avec un dynamisme. Il y a des exclamations, non seulement dans le poème, mais dans le commentaire. Il y a une exaltation du saint. Par exemple, il emploie, je ne sais pas combien de fois, le mot « grandir ». Dieu qui grandit l'âme. Il dira dans la strophe 2, paragraphe 36, on dirait que Dieu n'a qu'à s'occuper que de cette âme. Et d'ailleurs, si vous avez lu le texte du bréviaire aujourd'hui, de Saint Basile, en tout cas, moi, c'est mon bréviaire espagnol, il dit la même chose. Donc, c'est une intuition qui remonte au Père de l'Église. Hein? Voilà. Autre élément, alors, la plus littéraire, et Saint Jean de la Croix le dit dans son prologue, enfin, dans la présentation après les strophes, il parle de Boscan. Hein? Donc c'était des poètes à la mode, hein, avec Garcilaso de la Vega, Sebastián de Córdoba. Hein? Donc il a pris des poèmes, des mélodies, des rythmes et des rimes de ces poètes. Hein? Et puis, comme déjà ces poètes le faisaient, en prenant des poésies populaires, hein, souvent des chants d'amour de la rue, il les a tournés au divin, glosés au divin, comme on dit. Hein? C'était une technique littéraire et religieuse de l'époque. Donc il a fait cela. Si vous repérez un petit peu dans le texte espagnol, vous verrez au niveau, sur le plan lyrique, la rime est très régulière. Elle évoque une grande stabilité de l'expérience, dans l'expérience. Les exclamations traduisent une intensité d'amour. Vous avez donc le symbolisme du feu qui est dominant, mais nous allons voir dans la première strophe qu'il y a aussi le symbolisme de l'eau. Repris à l'évangile selon saint Jean, qui est, vous savez, l'évangile aquatique par excellence, hein, mais aussi l'évangile de l'esprit, hein, et en lien avec le prophète Ézéchiel, hein, bien sûr. Alors, ce que vous pourrez observer, je vais essayer un petit peu de vous faire sentir, c'est pas très facile, mais on le sent bien en espagnol, hein, il y a ce qu'on appelle des oxymores en littérature, c'est-à-dire des mises en contraste de termes qui s'opposent. Et par exemple, quand on dit une douce rencontre en français, hein, on ne voit pas le truc, douce rencontre, le mot encuentro en espagnol, c'est la rencontre des épées qui vont se croiser pour un duel, hein, et c'est aussi la rencontre des lances qui vont s'affronter dans deux armées qui vont s'affronter. Donc il faudrait plutôt dire, comme le dit d'ailleurs pour une fois, la traduction est bonne dans le cerf, de Marie du Saint-Sacrement, assaut. C'est un doux assaut, plus qu'une douce rencontre. Douce rencontre, ça édulcore beaucoup. Et donc vous voyez, douce, comment un assaut peut être doux? Voilà un oxymore. Donc des substantifs et des adjectifs qui sont en contraste, en antinomie, et qui veulent traduire une expérience du divin, une expérience mystique. Vous voyez ces oxymores. Quand il dira « suave cautère », qu'est-ce que c'est qu'un cautère au XVIe siècle, hein? Donc ce sont des pinces de métal qu'on rougit dans le feu pour guérir une plaie. On brûle pour guérir. Mais c'est horrible, il n'y a pas d'anesthésie et tout ça, donc c'est absolument horrible. Donc un cautère, c'est tout le monde crie. Hein? Peut-être pas au XVIe siècle parce qu'ils sont très stoïques, mais enfin bon, je ne sais pas. Hein? Mais nous, on crierait. Hein? Donc un cautère, c'est horrible, c'est très douloureux, c'est cruel. Et suave, cotter. Plaie délicieuse. Regalada llaga, plaie délicieuse. Une plaie, comment peut-elle être délicieuse? D'accord? C'est une blessure, c'est une plaie. Une plaie, ça suppure, c'est pas délicieux du tout. En soi. Et donc, c'est cette technique des oxymores qui veut traduire une expérience tout à fait antinomique. une expérience mystique tout à fait antinomique. Et aussi le texte, quand vous observez les verbes et aussi l'action qui est décrite, vous verrez dans le texte espagnol, c'est peut-être moins évident dans le texte français, mais quand même c'est net, il y a toute une expression de la temporalité. C'est très fort. J'avais essayé de vous le faire sentir dans les questions que je vous avais proposées. Les quatre strophes n'expriment pas une progression, c'est plutôt des points de vue différents de la même chose, d'une même situation, d'un même état. Mais ce que vous voyez dans au moins les deux premières strophes, hein, vous voyez, c'est assez net, hein, ça revient dans la quatrième strophe, c'est qu'il y a une abondance présente, une mémoire d'un passé douloureux, et on revient à la nuit, et puis une ouverture sur un futur glorieux. Donc on a toute la temporalité. C'est bien exprimé aussi dans la seconde strophe. Beaucoup moins, c'est plus voilé dans la troisième. Et la quatrième, par contre, alors on est dans une pure présence. Un pur présent et une pure présence. Et en même temps, un inachèvement, parce qu'il finit en disant « finisse » et « je n'en dis plus rien ». Et il a quasiment rien dit. Voilà. Il nous laisse dans l'aspiration de l'esprit. Papa ? Bien. Voilà quelques éléments un petit peu plus esthétiques sur le poème. Et je crois que c'est intéressant pour ne pas perdre de vue que la théologie de Saint-Jean de la Croix commence par la poésie, hein, et que c'est une théologie d'abord symbolique avant d'être spéculative, hein, même si elle est parfaitement ce qui est plus spéculative et rigoureuse, bien sûr. Hein, on va le voir. Voilà, y a-t-il des questions à ce sujet? Depuis hier, avez-vous des angoisses? Non? On peut avancer? Bon, alors avançons, nous allons entrer tout à fait dans la première strophe. Vous avez peut-être pu la préparer, ce serait heureux, mais bon, si vous n'avez pas pu, parce que c'est la fin de l'année, je le comprends. Si vous pouvez lire au fur et à mesure, c'est très bien aussi. Hein. Ça vous permettra de profiter plus pleinement de la session. Bah, si vous ne pouvez pas, de toute façon, on va lire quelques extraits essentiels dans le cours. Donc, j'espère que vous serez coopérants pour les lectures. Hein. Alors, entrons dans cette première strophe. Peut-être avez-vous des réflexions sur la lecture, ceux qui l'ont, et celles qui l'ont faite, non ? Les premières impressions à partager ? Ah, et alors, vous avez trouvé des... c'était des questions intéressantes, donc vous avez forcément trouvé des choses intéressantes, non ? Voilà.
Oui, mais vous l'avez dit, les titres et non, les symboles de l'esprit, c'est des fleuves de gloire.
Oui.
Et puis le feu qui brûle et rafraîchit.
Ah. Eh oui, vous avez observé ça ? C'est assez intéressant. Ce feu, il brûle et rafraîchit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les deux symboles se croisent. Ouais, ouais. Le symbole de l'eau et le symbole du feu. Ça glisse, il y a des glissements. Hein, et ça se croise, tout à fait. Ouais.
Je n'ai pas trouvé d'autre.
Oui, si, parce que c'est tout à fait juste. Alors évidemment, symbole du feu, la flamme, bon, ben, symbole de l'Ancien et du Nouveau Testament, il n'y a pas de problème. Hein, le livre des Actes est là pour nous le dire. Hein, cette flamme qui s'est posée le jour de la Pentecôte, bon, voilà. Hein, le feu de l'amour, etc. Bon, on n'a pas besoin de faire d'amples recherches. Hein, et puis l'eau, symbole de l'esprit, déjà anticipé chez les prophètes, Ézéchiel, hein, très nettement. Hein, très, très nettement, et puis en Saint Jean, hein, Jean 7, c'est très clair. Hein. Ces fleuves qui jaillissent dans le cœur du croyant. Hein.
Et l'Apocalypse.
Et l'Apocalypse, oui. Mais c'est vrai que lui, il cite l'Évangile, il ne cite pas l'Apocalypse dans ce cas. Mais
le fleuve qui sort du trône et
de l'agneau. Oui, de l'agneau, oui, tout à fait, oui. Ce fleuve de vie, hein. La fin, les derniers chapitres de l'Apocalypse, hein, c'est sûr.
Je retiens 22.
22, oui, bien sûr. Ouais. C'est clair, ouais. Donc on est, j'allais dire, dans une thématologie tout à fait biblique, là. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous avez remarqué aussi qu'il y a un certain nombre d'images qui vont avec, à propos de la personne humaine, je ne sais pas. de l'intériorité spirituelle. Vous avez repéré des choses, non? Des choses un peu étonnantes qui vont revenir par la suite, non? Ça ne vous a pas frappé?
J'ai passé à la deuxième question.
Ah, vous êtes passé à la deuxième question, oui.
Ben, vous avez raison, hein, parce qu'il faut obéir au prof, hein, ça c'est sûr.
Oui, oui. Alors, si vous regardez à propos de ces deux symboles de l'eau et du feu, vous voyez à propos, donc l'âme est toute enflammée, donc c'est dans le premier paragraphe, dans la Divine Union, et son palais est tout entier baigné de gloire et d'amour. Donc on a le palais, que ça vient faire, le palais de l'âme. Jusqu'au plus intime de sa substance, elle déverse rien moins que des fleuves de gloire en abondant délices, je traduis littéralement. Hein. Et elle sent courir de son sein les fleuves d'eau vive que le Fils de Dieu a dit, le Fils de l'homme a dit qu'il jaillirait de ses âmes. Hein. D'accord ? Donc c'est Jean 7, 38. Hein. Alors vous voyez, il y a un palais de l'âme. Ça va ? Hein. Parce qu'on va trouver à la strophe 3 des cavernes aussi. Donc il y a une espèce de physiologie de l'âme, c'est assez étonnant. Hein. Mais c'est assez important qu'il y ait un palais, parce qu'après, elle va goûter. L'âme va goûter. Oui, c'est un palais comme ça. Non, c'est pas un palais, c'est pas le palais de l'âme Sainte-Thérèse, non. C'est le palais Paladar, celui qui goûte. Parce qu'après, on va voir, il y a une expérience de goûter, et c'est le don de sagesse, et on goûte par le don de sagesse. Donc, c'est assez intéressant, tous ces symboles qui se croisent et s'entrecroisent. Hein. Alors, vous avez aussi, dans le premier paragraphe, qui exprime beaucoup de choses, hein, une sorte de plénitude. Elle est transformée en Dieu avec tant de force, et elle est tellement possédée par lui, avec de telles richesses, de dons et de vertus, qu'elle est toute proche de la béatitude, hein, et que l'en sépare seulement une toile. Alors, c'est ce symbolisme de la toile. Hein. Bon, ça, c'est assez intéressant, c'est même assez rigolo. La toile de cette vie, ça existe même dans la mythologie. Il y avait les parcs, hein, qui coupaient la toile, le fil de la vie. Hein, Geneviève, vous pourriez dire quelque chose? Non, on va dire, c'est dans la culture classique, ça. Hein, la toile de la vie, le fil de la vie et les parcs qui coupent. Hein, et puis donc on meurt. Si les parcs coupent, alors on meurt. Hein, c'est ça dans la mythologie, dans l'Antiquité. Hein, bon. Ces espèces de déesses, non, féminines, je ne sais pas trop comment dire, enfin, oui, pas trop quoi dire, hein, ce sujet-là, mais enfin, voilà, on coupe le fil de la vie. Donc c'est un symbole à la fois humain, hein, littéraire, qu'il a repris. Hein. Il va nous parler de trois toiles, vous avez fait attention à ça, hein. Je vais un petit peu, là, je fais des petits sondages pour voir ce que vous avez lu, si vous avez lu, n'est-ce pas, Stanis? D'accord, oui. Si vous avez lu, est-ce que vous avez lu? Il parle de trois toiles. Qu'est-ce que c'est que ces trois toiles? C'est un petit peu plus loin. Voyons. D'accord. Comme ça, je situe bien. Et je peux situer mon espérance aussi pour cette session. Thomas, Père Thomas, non?
Je l'ai dit il y a 15 jours.
Alors, il y a trois toiles, c'est au paragraphe 27 et suivant, vous allez voir, quand il va parler de la mort d'amour. On va y revenir, on va faire les choses bien après, ne vous inquiétez pas, bien structuré. Là, c'est les petits sondages. Hein. Trois toiles. Il y a d'abord, ou trois voiles, comme vous voulez, trois toiles, telas ou voiles, c'est peut-être traduit voile chez vous, non, c'est pas ça, hein. Il y a d'abord ce voile ou cette toile, des créatures et de la création. Entre nous et les créatures, il y a un voile. Hein? De fait, les créatures et la création peut représenter un voile ou une toile au sens d'un obstacle, au sens de ça peut nous être opaque. Et surtout si on y est très attaché. Hein? Donc, il y a les créatures ou la création peut devenir un obstacle pour Jean Lacroix. Donc, il y a ce voile des créatures. Alors, il dit que ce voile, normalement, cette toile, elle a été coupée par les nuits. C'est pour ça que c'est important ce qu'on a dit hier, hein, cette articulation avec le livre de la montée des nuits et de la nuit. Hein. Ensuite, il y a la toile des inclinations purement naturelles, il dit, de nos appétits, le voile. Et là aussi, ça passe par les nuits, donc ça peut être purifié. Donc ces toiles-là, ces voiles-là peuvent être supprimées. Et puis il reste une dernière toile, et ça, on n'y peut rien. On y peut quelque chose par l'amour. Hein.
C'est la toile de cette vie, c'est la toile de la vie animale, c'est l'union de l'âme et du corps. Et il faut que cette toile se rompe, que ce fil se rompe, que ce voile se rompe, pour que nous passions à la vision de Dieu et au bonheur de Dieu. Alors, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'esprit, c'est la vie flamme qui fait ça. Mais ça dépend de nous aussi si nous nous exerçons à l'amour, il va dire. Parce que c'est l'amour qui nous fait passer en Dieu et qui est tellement ardent et brûlant sous l'action de l'esprit que nous allons passer à Dieu et on revient à l'image du... Vous avez vu ça, non? À l'image du fleuve qui passe dans la mer, vous n'avez pas vu ça? On revient à cette image-là. Notre vie est comme un fleuve qui entre dans la mer, dans la mort. C'est une grande image dans la poésie espagnole du Moyen-Âge, d'ailleurs, avec Jorge Manrique. Nos vies sont des fleuves qui débouchent dans la mer, qui est le mourir, dit-il. Et là, on trouve tout à fait ça chez saint Jean de la Croix. Par l'Esprit Saint, nos vies vont passer d'une plénitude d'amour à un excès d'amour par l'Esprit Saint. Et donc, nous n'y pouvons rien et nous y pouvons beaucoup, dit Jean de la Croix, si nous nous exerçons à l'amour.
On verra cette...
Et justement, il nous fait comprendre qu'au fond, pour ces âmes, cette mort d'amour, c'est un déchirement, tout simplement. Hein? C'est pour ça qu'il parle d'une douce rencontre, enfin d'une rencontre ou d'un doux assaut. Parce qu'on passe en Dieu et on le désire et on y est préparé. Et voilà. Et donc, voilà, il parle de la mort de ces âmes, la mort d'amour. C'est intéressant, hein, ça, cette mort d'amour dont parle saint Jean de la Croix. Hein? Vous aurez cette expression, hein. Il importe beaucoup que l'âme s'exerce à l'amour afin que, c'est 2, 35, 36, on va le retrouver un peu. Et c'est frappant parce que c'est saint Jean de la Croix, on s'exerce à l'amour pour ne pas s'arrêter aux choses, pour avancer, hein, en hâte. Ça c'est saint Jean de la Croix, je vous l'avais présenté comme ça hier, hein, et pour passer à Dieu. Bon, c'est pas la peine de s'attarder et que l'amour nous fasse avancer et hâter le pas. Et donc, nous prépare à cette rencontre. Voilà. Bon, donc on va parler de la mort, le fait dans cette strophe. Eh bien, intéressant. Ça peut être intéressant pour la pastorale, ça. Hein? Pour l'accompagnement des malades et des mourants. Hein? Et n'oubliez pas, je vais en faire mention, mais cette strophe de la vie flamme, mais la vie flamme complètement. Thérèse de Lisieux, dans les derniers entretiens, en parle constamment, car c'était son livre de chevet. Et ses sœurs, Mère Agnès, tout ça, très pieuse, très dévote, qui lisait La vie flamme et qui disait, parce que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus avait dit qu'elle voulait vivre la mort d'amour, enfin qu'elle voulait mourir de la mort d'amour telle que l'avait décrit Saint Jean de la Croix, et qui attendait une mort d'amour, extatique dans les transports, hein, dans les transports mystiques, hein, pendant les transports urbains. Et avec cette douce rencontre, une mort un peu style Dormition de la Vierge ou quelque chose comme ça, tel qu'on l'imagine, c'est pas forcément, on sait pas du tout pour la Dormition de la Vierge, on sait rien. C'est des supputations, enfin c'est la théologie, enfin la piété qui dit ça.
Ça intéresse Mila un peu parce que ça on le lit.
Et on le lit, mais on ne lit pas aussi que ses derniers mots, c'est « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, tu ne repousses pas un cœur brisé et broyé », c'est le miserere qu'elle dit, c'est pas... voilà, hein. Donc les transports, c'est aussi un petit peu l'extase de Sainte Thérèse, c'est mitigé. Hein. Donc voilà, faut bien corriger avec ce que disent les procès. Hein. Et chez Sainte Thérèse de Jésus, alors ses sœurs étaient là avec la vie flamme, qui était le livre de chevet, et voyons si point par point, ça va se réaliser. Et c'est pour ça que Mère Agnès, à la fin des derniers entretiens, c'est tout à fait typique, quand elle voit une extase finale de Thérèse sur son lit de mort, l'espace d'un credo, hein, parce qu'elle dit « Mon Dieu, je vous aime », après d'atroces souffrances d'une tuberculeuse qui meurt, asphyxiée, hein, comme Jésus en croix, hein, et la mort de Jésus en croix. Et Mère Agnès dit oui, comme si un doux chasseur enfonçait un dard dans son cœur. Il y a cette phrase-là, parce que c'est les clichés de l'extase mystique qu'elle projette là-dessus. Il n'y avait rien de tout ça. Elle dit « Mon Dieu, je vous aime », et c'est tout. Et regardez, le 30 septembre, jour de sa précieuse mort, Mère Agnès, elle raconte tout ça dans les derniers entretiens, et elle met tout ce vocabulaire de l'extase mystique qu'elle projette, parce qu'il fallait qu'elle soit morte selon la mort d'amour telle qu'on l'avait comprise de Saint Jean de la Croix, et j'aimerais bien vous faire comprendre que ce n'est pas ça.
Mais la petite sainte elle-même, elle bon. Dit que la plus belle mort d'amour, c'est celle de Jésus.
Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, on va y revenir. Hein. Voilà. Hein. Alors, c'est assez intéressant de voir les clichés, quoi. Hein. Comment on a compris ça, même dans le Carmel. Sainte Mère,
Carmel de Lisieux.
Alors, reprenons maintenant, vous avez le plan, on va essayer de suivre ça quand même, hein. C'est pas trop difficile. Hein. Le plan que je vous ai donné aujourd'hui pour notre étude, donc plus structurée. Hein. Le paragraphe 1, on va en lire d'autres, hein, je voudrais pas m'attarder dessus. Avec ce double symbolisme de l'eau et du feu, nous fait comprendre à propos du feu que cette flamme est la flamme de l'Esprit-Saint. On va le voir au paragraphe 3. Hein. C'est l'esprit de l'époux, dit-il, très simplement, hein, et c'est l'espíritu de su esposo. Donc cette flamme investie, c'est le mot investir en espagnol, hein, investie, absorbe glorifie et semble lui donner la vie éternelle et il semble qu'il manque très peu pour que cela ne se fasse, hein. Donc nous voyons que Saint Jean de la Croix nous tourne vers nous faire garder une plénitude présente mais aussi une gloire future qui est en quelque sorte anticipée, incoative, on dit en théologie, mais pas encore achevée. La plénitude présente, elle est bien marquée par le symbolisme de l'eau, dont déborde, dont regorge l'âme, hein, l'eau vive de la grâce, hein, ces fleuves d'eau vive qui jaillissent du sein du croyant. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça sur un plan théologique? Je crois qu'avec ces symboles, on a quelque chose de très intéressant. L'Esprit de Dieu se révèle comme un Dieu agissant à l'intime de sa créature. De fait, Saint Paul dit bien dans l'Épître aux Romains que l'Esprit se joint à notre esprit. Il vient épouser notre esprit, il est un don personnel. Le Verbe de Dieu a pris la nature humaine. Mais c'est l'Esprit-Saint qui se joint aux personnes humaines. D'accord ? Voilà un aspect important. Hein, je me souviens, on avait travaillé ça avec le père Garrigue quand on avait fait un cours de pneumatologie avec lui à Lyon, hein, Jean-Miguel Garrigue. Et il avait beaucoup travaillé les théologiens russes, où il y a une forte pneumatologie, Lovski, tout ça, hein, des grands théologiens russes du XXe siècle. Et ces théologiens parlaient d'une kénose de l'Esprit. C'est pas du tout courant. Hein, une kénose de l'esprit, kénose, abaissement en grec, kénosis, hein. Donc on parle de la kénose du Verbe de Dieu dans l'Épître aux Philippiens. Il s'est abaissé, hein, et il s'est humilié, hein, et il s'est fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est la kénose, puis l'exaltation. Donc c'est cette espèce de parabole, hein. Donc ça va très bien pour le Verbe. On n'emploie pas du tout le terme pour l'esprit, mais ces théologiens russes l'employaient, et ça peut être assez intéressant. Il y a une sorte de kénose de l'esprit auprès de la personne humaine. L'esprit épouse notre esprit, se joint à notre esprit. Il n'est pas donné de manière globale, hein. Il est donné pour agir, pour assaillir, pour investir. À propos de cette kénose, ça me revient à l'esprit aussi, quand vous regardez le catéchisme de l'Église catholique, vous verrez sur la personne de l'esprit dans le credo, le commentaire, vous verrez qu'il est question d'un effacement de l'esprit. Il y a le terme effacement. Et je pense que c'est une influence du père Garrigue sur le père Schoenborn. Ils sont très amis et ils se sont beaucoup consultés pour la rédaction du catéchisme. Le père Garrigue avait, en lien avec les théologiens russes, aimé parler de ce mystère d'effacement de l'esprit qui au fond se révèle à travers les personnes humaines et fait percevoir la diversité, la puissance de sa grâce à travers la diversité des charismes qui sont donnés à l'Église, hein, mais qui ne se manifestent pas comme tel, alors que le Fils de Dieu s'est manifesté dans la chair, il s'est rendu visible, hein. Donc il le porte d'ailleurs dans le mystère trinitaire lui-même, hein. Il dit qu'il y a comme un mystère d'effacement de l'esprit. Vous irez voir, c'est assez intéressant comme perspective théologique. D'esprit. au sein de la Trinité et ad extra dans le monde. C'est une expression qu'il ne faut pas durcir, qu'il ne faut pas forcer, car il y a égalité de l'esprit avec les autres personnes divines. Il reçoit même adoration et même gloire, le credo est là, pas de problème. Mais il parle d'un mystère d'effacement de l'esprit. C'est intéressant, cette kénos. Bon, donc là on a un peu quelque chose de ça, voilà. La symbolique de l'eau signifie la naissance, la fraîcheur, la fécondité, le palais qui se rafraîchit, la pureté, la vie donnée. Ce sont tous les dons messianiques dans l'Écriture. Le symbole du feu signifie l'énergie transformante, le feu du ciel, attiré par la prière d'Élie. Jean-Baptiste, annoncé comme celui qui baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. Donc c'est un symbole très expressif de l'action transformante de l'Esprit, une action intérieure dans le cœur et les consciences. Il brûle, il envahit, il s'empare, il enveloppe, il absorbe, il assaille. Donc vous voyez, c'est à la fois violence et douceur. Fermeté et douceur, c'est des antinomies. La symbolique de l'eau, elle nous parle de la gloire présente, la plénitude présente. Le feu nous permet d'envisager l'avenir. C'est par le symbolisme du feu et de la flamme qu'on peut passer du présent à l'avenir, pas par l'eau. Marrant. Et l'eau, c'est la plénitude de grâce actuelle, quoi. Voilà. Bien. Alors, on va jeter un coup d'œil à cette nature et œuvre présente de la flamme. On va essayer de dégager quelques aspects. Donc, cette flamme, c'est l'esprit de l'époux, paragraphe 3. Donc, vous voyez, c'est aussi en rapport avec le cantique. Le cantique nous avait présenté l'esprit comme l'intendant de l'époux. Le souffle, spiré par le verbe. Maintenant, c'est l'esprit de l'époux. Donc, c'est bien articulé avec la christologie. La mission de l'esprit est bien articulée à celle du verbe. Ça me paraît essentiel. C'est les clés que je vous ai données hier. Donc, j'y reviens. Ne détachez pas la pneumatologie et la vie flamme du reste. La théologie de Jean de la Croix. L'Esprit Saint est donné à l'âme, il est senti même, dit Jean de la Croix. Senti, il faudra voir ce que c'est que ce sentir, on le verra surtout à la strophe 3. Et il est connu par son œuvre comme feu consumant, transformant, extrêmement dynamique avec des jets de flammes. Donc il y a la bûche, il y a des jets de flammes. Et alors voilà le point que je vais détacher un tout petit peu là, paragraphe 4, on va lire un peu ça. 4, 5, 6, là on va lire un peu. Il enveloppe l'agir, la volonté, la liberté humaine qui va participer à la fécondité de l'esprit dans tous ses actes. Et alors il y a un rapport très délicat entre l'œuvre de l'esprit et l'activité de l'âme, entre la grâce et la liberté. Ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil à ça. Il y a une union habituelle qui s'actualise dans des jets de flamme. Voilà. Mais qui, ces jets de flamme, ce sont des actes que l'Esprit-Saint fait poser, mais qui dépassent la capacité humaine. Ce sont des actes divins. Donc il y a une élévation de l'agir de l'âme. C'est une dignification, on pourrait dire, de l'âme. Alors on va jeter un petit coup d'œil, paragraphe 4, on peut le lire, 3, 4, et puis on lira le paragraphe 9. Ah ben voilà, ça vous ferez ce que vous pourrez. Moi, je fonctionne avec les paragraphes, oui, voilà. Peut-être, ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Cette flamme, vous avez passé au paragraphe 3 de la strophe 1. Cette flamme d'amour est l'esprit de l'époux, qui est l'Esprit Saint. Vous savez ça?
Non.
Bon, on va le lire, ne vous inquiétez pas, on va le lire en français. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'affoler. Alors, est-ce qu'on peut avoir des lecteurs? Pierre, par exemple. Et puis après, on continue. Ceux qui veulent bien lire. Peut-être, ma soeur, vous n'avez pas envie de lire en français, ça ne vous dit rien. Oui, bah alors, vous lirez, on va continuer en français. C'est la langue commune, ici. Gabriel, voilà. Ceux qui peuvent lire, ceux qui ne peuvent pas, parce que pas leur langue, je les comprends bien. Pour vous affoler. On continue comme ça, de paragraphe en paragraphe. Ça va? Allez, bien, merci.
Cette flamme d'amour est l'esprit de son époux, qui est l'Esprit Saint, que l'âme sent désormais en soi, non seulement comme un feu qui la tient consumée et transformée en suave amour, mais comme un feu qui, en outre, brûle en elle et jette flamme, comme j'ai dit. Et cette flamme, chaque fois qu'elle flamboie, baigne l'âme en gloire et la rafraîchit en un flot de vie divine. Et telle est l'opération du Saint-Esprit en l'âme transformée en amour, que les actes qu'il fait à l'intérieur, c'est de jeter des flammes, qui sont des inflammations d'amour, en qui la volonté de l'âme, lui étant unie, aime d'une façon très sublime.
Très élevée, subidissimamente, très élevée, c'est très sublime. Hein?
Étant en fait un seul amour avec cette flamme. Et ainsi, ces actes d'amour sont d'un très grand prix. Et l'âme mérite plus en un seul et vaut plus que tout ce qu'elle avait fait tout le temps de sa vie sans cette transformation, quoi que ce fût.
Ah, voilà un aspect intéressant qui était déjà dans le cantique spirituel. Donc c'est l'amour qui donne valeur aux œuvres et qui donne de mériter. L'amour donné par l'Esprit-Saint, qui a sa source dans l'Esprit-Saint que nous exerçons, qui nous donne de mériter, d'entrer dans le mérite du Christ, c'est-à-dire la valeur de tout ce qu'il a fait et souffert pour nous dans la grâce de l'Esprit-Saint. Donc ça, c'est clair. Donc l'âme mérite, ses actes sont très précieux, beaucoup plus précieux que tout ce qu'elle a pu brasser comme activité avant. On peut s'agiter, s'activer, s'il n'y a pas l'amour qui vient de l'Esprit-Saint, ça n'a pas de valeur. Il est terrible, j'en crois pour ça. Dans le cantique, c'est terrible, la strophe 29 et 30. Dans le pur amour, l'âme mérite beaucoup plus que dans un acte de pur amour qu'avec toutes les œuvres réunies. Donc voilà, c'est là, c'est l'échelle de valeur sans joannique. Là, il est féroce là-dessus, c'est très clair. Mais on mérite, ça a de la valeur, c'est proportionné à la récompense. On mérite, ça vaut, c'est précieux. C'est une dignité de l'agir humain. Continuons.
Or, la différence qu'il y a entre l'habitude et l'acte se trouve entre la transformation en amour et la flamme d'amour, qui est celle qu'il y a entre le bois enflammé et sa flamme, car la flamme est l'effet du feu qui est là.
Voilà, c'est facile avec les images, hein, le bois enflammé, la flamme, les jets de flamme, hein. L'habitus, il faut plus trop traduire habitus que habitude, c'est habito, hein, donc c'est l'habitus et l'acte, donc vous connaissez bien ça de la philosophie et théologie réaliste. Hein, voilà. Bon. Continuons, paragraphe 4. Oui.
De là vient que l'âme qui est en état de transformation d'amour, nous pouvons dire que son état ordinaire est semblable à celui du bois qui est toujours assailli par le feu, et les actes de cette âme sont la flamme qui procède du feu d'amour, laquelle sort avec d'autant plus de véhémence que le feu de l'union est plus véhément.
Intense. Avec tant de véhémence que le feu de l'union est plus intense, d'accord ?
Et en cette flamme, les actes de la volonté ravie et absorbée en la flamme du Saint-Esprit s'unissent et montent comme l'ange qui montait à Dieu dans la flamme du sacrifice de Manoé.
Bon, le livre des juges, hein, au moment de la naissance, hein, de... C'est Samson, non ? Oui, c'est ça, Manoé. Manoé, on dit Manoé ici. Hein. Donc, un petit instant, je souligne ce point. Nos actes libres, volontaires, hein, les actes de notre volonté, sont donc saisis, absorbés dans la flamme de l'Esprit-Saint. C'est donc notre participation à l'amour qu'est l'Esprit-Saint. Hein, c'est une participation. Alors, vous allez voir toutes les nuances qu'il y a ensuite. Petit instant, s'il vous plaît. Merci.
Et ainsi, en cet état d'âme, l'âme ne peut exercer d'acte. C'est le Saint-Esprit qui les fait tous et il meut l'âme, ce qui est la cause que tous ces actes sont divins, puisqu'elle est mue et agit par Dieu. De là vient aussi que chaque fois que cette flamme vient à flamboyer, faisant en sorte que l'âme aime avec saveur et douceur divine, il semble à l'âme qu'elle lui va donner la vie éternelle, puisqu'elle l'élève à une opération de Dieu en Dieu.
Bien. Alors voyez donc, l'insistance ici est sur le fait que nos actes volontaires, libres, sont assumés par l'Esprit. Assumés et que nous y sommes portés, poussés, mus, Rappelez-vous, Romains 8, 14, ceux-là sont enfants de Dieu, donc c'est un texte clé pour Jean de la Croix, dans la vie flamme et ailleurs. Ceux-là sont enfants de Dieu qui sont mus par l'Esprit de Dieu. C'est une motion de l'Esprit. Ils sont mus. Hein. Elle y est mue. C'est l'Esprit Saint qui les fait tous. Alors, l'insistance ici, elle est sur le fait que c'est l'Esprit qui fait, qui pousse. Alors, nous allons nous reporter tout de suite au paragraphe, j'espère ne pas me tromper, 9, et puis après 14. Et vous allez voir un complément heureux de cela. C'est pour ça que je veux lire tout ensemble. Alors, c'est le commentaire du vers dans le centre le plus profond de l'âme. Dans le centre le plus profond de mon âme. Paragraphe 9. On peut le lire ? Gabriel, tu l'as ?
C'est juste en dessous, parce que je n'ai pas les murs. Juste après le vers.
Oui, voilà, c'est ça.
Or, comme les choses rares et dont on a peu d'expérience, excite plus notre admiration et semble moins
de valeur. C'est pas ça. De mon âme, le centre le plus profond, t'as pas ça? Alors écoutez, on va aller par les paragraphes. Tu vas essayer de chercher par toi-même, puis on va passer à quelqu'un qui a la traduction avec les paragraphes. Hein, si ça ne t'ennuie pas, tu vas essayer de te retrouver. Ah ben d'accord. Très bien, ouais. C'est sûr que les éditions avec paragraphes sont beaucoup plus intéressantes, sinon on n'arrive pas à travailler. Les éditions du Seuil, tout ça, sont devenues casse-pieds à cause de ça. Voilà. Voilà. Car dans la substance de l'amour, ni le centre, ni le sens, ni le démon peut parvenir. Hein, d'accord, c'est ça?
Oui, c'est bon.
Ça y est, tu l'as? Oui. Alors, voyons ça.
C'est dans la substance de l'âme, là où le sens n'atteint point, là où le démon ne saurait pénétrer, qu'a lieu cette fête de l'Esprit Saint. D'autant plus sûre, plus substantielle, plus délicieuse qu'elle est plus intérieure. La raison en est que plus elle est intérieure et délicieuse, plus elle est pure, et plus grande est la pureté, plus abondamment, plus fréquemment et plus universellement Dieu se communique.
Alors le mot pureté pour Saint Jean de la Croix a un grand poids, on va le retrouver partout, dans chaque strophe. La pureté de l'âme, c'est l'âme qui s'est, alors il a le mot, adelgazar, qui s'est dégraissé, hein, donc il faut se dégraisser. Ça veut dire qu'il faut se désencombrer de tous les obstacles à l'union, c'est ça la pureté de l'âme, d'accord?
Plus aussi grandissent la jouissance et la délectation de l'esprit. Car ici, c'est Dieu qui fait tout et l'âme n'opère rien d'elle-même.
Ça va? Vous retenez cette affirmation?
L'âme, en effet, ne peut agir que par l'entremise et avec le secours du sens. Or, elle est ici totalement affranchie du sens, bien éloignée du sens. Elle ne fait donc autre chose que recevoir de Dieu. C'est-à-dire de celui qui peut agir dans le fond et dans l'intime de l'âme sans le secours des sens, de celui qui peut mouvoir l'âme au-dedans d'elle-même. De là vient que tous les mouvements de cette âme sont divins, et bien qu'ils soient de Dieu, ils sont aussi d'elle, car Dieu opère en elle avec elle, puisqu'elle lui donne sa volonté et son consentement.
Ah, voilà le complément que nous attendions, enfin que voilà. Hein. Ils sont aussi ceux de l'âme, parce que Dieu les fait en elle, avec elle, qui donne sa volonté et son consentement. Ce consentement à Dieu, cette offrande de la volonté, est la coopération, la collaboration suprême pour Saint Jean de la Croix, dans la grâce. Voilà. Donc voilà le point complémentaire. Autre point, puisqu'on a déjà lu ce texte, qu'est-ce que c'est que ce centre de l'âme, où le sens n'a pas de part? Bon, évidemment, chez Saint Jean de la Croix, il y a cette psychologie qu'on a vue déjà dans le livre de la nuit. Hein. Donc il y a un peu en nous deux zones pour Saint Jean de la Croix. C'est la psychologie d'un mystique comme Jean de la Croix, ce n'est pas une psychologie très, très carrée, tirée au cordeau. Hein. Donc il y a cette zone du sens, c'est-à-dire un petit peu ce qui est notre dehors, ce qui nous tourne vers l'extérieur, absorber, connaître ce qui vient de l'extérieur, que nous intégrons, etc., l'essence interne, l'essence même, l'imagination, ce que Saint Jean de la Croix dit aussi, la fantaisie, voilà tout ça. Donc il y a toute une partie de notre être qui est tournée vers l'extérieur et qui reçoit de l'extérieur, et qui fonctionne avec l'extérieur. C'est ça le sens pour Jean de la Croix. Et puis il y a l'esprit, alors c'est la zone la plus profonde, la plus intérieure, qui se reçoit de Dieu, qui est le lieu, sans être le lieu localisé physiquement,
de la rencontre avec Dieu, l'espace de la rencontre avec Dieu. Et c'est là où Dieu peut agir directement et immédiatement. Et c'est ça qui nous fait sentir. Donc dans cette vie de sainteté, des sommets qu'il nous décrit, les choses viennent de l'intérieur. Et la personne humaine est agie de l'intérieur par l'esprit, sans qu'il y ait l'obstacle de tout ce qui vient par l'extérieur, qui est trafiqué, qui passe au crible de nos facultés, etc. Non, là, ça vient directement, immédiatement de Dieu. Et c'est là qu'on est le plus libre, nous fait comprendre Saint Jean de la Croix. C'est dans ce centre qu'on est le plus libre, dans cette relation avec Dieu, où Dieu agit en nous et où nous consentons à son action, c'est là que nous sommes le plus libres. C'est là, pour lui, vraiment le centre et le point d'équilibre de la personne humaine. Car, évidemment, avec tout ce qui nous vient de l'extérieur, tout cela fait pression sur nous. C'est toujours le grand risque. Voilà, il nous occupe, nous encombre, fait pression sur nous. Tandis que, évidemment, quand se dégage petit à petit ce centre de l'âme, par la flamme purifiante de l'esprit, alors c'est un espace de liberté pour l'homme. C'est au fond avec Dieu que nous sommes le plus libres. Et oui, ça c'est la grande vérité pour Saint Jean de la Croix. Oui. C'est une liberté qui est donnée, qui est creusée, approfondie. Et d'ailleurs, il montre bien que l'âme a plusieurs centres. Hein, c'est tout ce qui est décrit par la suite. Il dit le centre le plus profond, donc l'âme a plusieurs centres. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces centres? Eh bien, il dit au fond, ces centres, c'est assez intéressant, c'est un petit peu subtil, mais ces centres, ce sont des profondeurs. C'est l'homme qui est approfondi, qui s'approfondit, qui se dilate vers l'intérieur. Il prend l'image de la pierre, pierre qui gravite, la loi de gravitation. La pierre, elle va vers son centre, elle va toujours vers le centre de la terre, jusqu'au plus bas où elle peut tomber, la pierre. Et bien, il dit que l'âme, c'est pareil, elle va vers son centre, au plus bas où elle peut tomber, par l'amour. Et les cercles concentriques, ce sont les cercles d'amour. Plus on s'approfondit dans l'amour et par l'amour, et plus on a de centre. Et il termine en disant, on va le voir au paragraphe 14, le centre de l'âme, c'est Dieu, tout bonnement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire qu'on se confond avec Dieu, ce n'est pas une union par confusion, on n'est pas dans dans des affaires, de type mystique, un peu oriental et tout ça, de la confusion avec le divin. Non, c'est une union, non pas par confusion, mais par communion, Dans l'amour, c'est une profondeur creusée. Vous avez sur le paragraphe 12, Dieu est le centre de l'âme. Vous pouvez le retrouver sans doute. Et puis, il continue d'expliquer ça au paragraphe 14. Ça veut dire que l'homme doit se concentrer par l'amour, se concentrer en Dieu par l'amour. Ça veut dire aussi que Dieu qui est le centre de l'âme, non pas qu'il se confond avec l'âme, mais il l'attire. Et l'amour porte, exige d'aller vers le centre. Nommer Dieu le centre de l'âme, c'est montrer l'exigence, le dynamisme de l'amour qui attire l'homme vers ce Dieu qui est son créateur et son rédempteur. On va lire le paragraphe 14 si vous voulez. Regardez. C'était à Stanislas, ça, ouais.
En disant que la flamme la blesse en son centre le plus profond, l'âme déclare donc qu'elle est blessée selon toute l'étendue de sa substance, de sa force et de sa capacité. Ce qu'elle dit pour donner à entendre l'extraordinaire abondance de délices et de gloire qu'elle expérimente. Plus elle est substantiellement concentrée en Dieu, transformée en lui, plus ses délices sont grandes, plus elles sont exquises. Cela surpasse de beaucoup ce qui se passe dans la commune union d'amour à cause de l'extrême embrasement du feu, lequel, ainsi que nous le disions, est devenu une vive flamme. L'âme enveloppée d'une gloire si suave et l'âme qui jouit seulement de la simple union d'amour peuvent en quelque façon se comparer la première à ce feu de Dieu dont Isaïe nous dit qu'il se trouve dans Sion, laquelle figure l'Église militante, la seconde à ce four de Dieu qui était à Jérusalem.
Ah, toi tu as la vie flamme. Ah, je pense, Claudette, j'ai trouvé la clé de votre problème. Voilà, nous sommes, c'est selon la A ou la B. Et là, c'est une partie où il y a des compléments. Alors, je pense que toi, soit c'est le cerf.
C'est le couvert.
C'est le gros pavé.
Oui, c'est un gros pavé.
Alors, donc, il faut aller voir à la A.
En effet, la vie flamme a. Hein? Voilà. Maintenant, j'ai compris parce que je ne comprenais pas. Maintenant, c'est compris. Voilà. Donc, on est dans la A, dans cette traduction du cerf. Reste à savoir après ce qu'ils ont fait. Alors, dans la A, c'est le même numéro, mais ce n'est pas tout à fait rédigé pareil. Et je trouve que c'est très intéressant dans la A, parce qu'il y a Sion, cette Jérusalem, qui signifie l'église militante, qu'on n'a pas dans la B, il l'a enlevé, c'est bien dommage, parce que justement, ça colle tout à fait ce qu'il a dit dans le cantique, ce qui se dit de l'âme se dit très justement de l'église. Et Sion, Jérusalem. Hein? Donc, c'est très bien. Oui, en effet, je vois ça. Bon, alors maintenant, il faut lire dans la petite écriture de la strophe A. Ben, alors, disons que c'est la A. Je ne sais pas ce que vous avez en anglais. Hein. Est-ce que c'est la B, est-ce que c'est la A, c'est à voir. Vous voyez, il y a des petits changements quand même de temps en temps, hein, plus que, un petit peu plus fort que ce que je vous ai dit hier. Hein. Donc vous, vous avez la A toujours, et qui est-ce que, qu'est-ce que vous avez comme autre édition? Vous avez la B, vous?
Ouais,
c'est quoi, c'est le portugais?
Ah,
t'es dans le portugais du Portugal, là?
Non, du Brésil.
Non, c'est du Portugal, j'ai rapporté que du Brésil, que du Portugal.
Non, c'est du Brésil, c'est la mienne.
Ah, c'est la tienne, ah oui, d'accord, oui. Donc ça, c'est Vozes.
Oui.
Ouais, c'est ça, oui, d'accord, alors portugais du Brésil, oui. Je pense que c'est la B, non?
Oui, c'est
donc,
la B.
Vous allez faire comme vous allez pouvoir, parce que, hein, on va voir, selon le lecteur, on aura A ou B. Toi, tu dois avoir B, non? T'avais Sion là-dedans, toi?
Non.
C'est ça, t'as la B. Et donc... Bon, courage, hein, ne faisons pas de build. De toute façon, c'est la diversité qui fait la richesse, donc on va échanger encore plus. Hein. Et maintenant, c'est la pause, on s'arrête. Hein. Après, ce sera fini. Voilà. Ça coupe court à toutes les discussions. On te reprend, Stanislas. Ne t'inquiète pas. Non, on ne va pas te lâcher comme ça.